Juste avant de partager cette parole fraternelle ce matin avec chacun d'entre vous, j'ouvre une enveloppe parce que un très cher frère me l'a laissée, il n'est pas là ce matin et voulait que je lise aussi ce qu'il nous adresse à tous. Il s'agit de Simon en fait, tout simplement, Simon Baraka, qui comme je pense vous le savez tous ou presque tous, a perdu sa maman il n'y a pas si longtemps. Et voilà ce mot qu'il adresse à chacun d'entre nous. Il dit très touché par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui nous ont été témoignées lors du décès de sa maman, lui, ses enfants, ses petits-enfants, bien sûr, je parle par rapport à sa maman, donc ses enfants à lui, ainsi que bien sûr toute sa famille, remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, on fait part de cela par certainement l'envoi de fleurs, de cartes, et se sont surtout associés à la douleur qu'ils connaissent et ont traversée. Voilà. Il m'avait demandé de le faire. Le connaissant, je pense qu'il préférait même que je le fasse en son absence. Vous savez qu'il est très réservé. Mais voilà. C'est cette parole qu'il voulait partager aussi et vous adresser ce matin. Et je sais pas où je le mets. Avant même encore de commencer, je suis dans la joie d'être avec vous ce matin, en ce temps où nous allons réveillonner, je pense pour la plupart, peut-être tout à l'heure, plus encore certainement ce soir, et surtout de célébrer Noël. Je suis dans la joie de partager ce temps avec vous et de le faire avec vous tous, et d'être dans la joie aussi d'avoir notre sœur, notamment, je vous compte tous, mais notamment Anne, puisque nous n'avons que rarement eu l'occasion de partager un temps de culte avec elle. Elle était très récemment avec nous quand nous avons fêté Noël avec les enfants, surtout. Et voilà, elle est là. Je me permets de le dire parce que je pense qu'elle n'osera pas vous le dire, mais tout à l'heure, si vous avez envie de la saluer, n'allez pas lui sauter dessus tous ensemble. Et surtout, si vous êtes, ne serait-ce que peut-être, un peu malade, ou que vous le soupçonnez, mais sans en être sûr, évitez de lui sauter dessus et de lui faire des bisous. On a tous envie hein, d'en faire, hein, je le comprends. Mais voilà, tendez-lui la main, faites-lui même un coucou de loin, saluez-la, mais évitons peut-être de lui transmettre quoi que ce soit, parce que nous savons que ses propres défenses immunitaires face aux microbes ne sont pas aussi aguerries. Quoique les nôtres d'ailleurs ne sont pas forcément très en forme, puisque je pense beaucoup parmi nous sont déjà aussi bien fatigués. Mais c'est très relatif comparé à ce que vit Anne. Donc voyons, n'hésitons pas à la saluer, mais soyons prudents et ne lui sautons pas tous en même temps. Elle demeure fatiguée, donc n'allons pas trop l'épuiser non plus. Voilà. Désolé hein, si je le dis, mais je préfère le faire parce que je sais que tu n'oseras pas. Voilà, j'arrête là pour tous ces mots. Et j'aimerais maintenant m'intéresser et partager cette parole fraternelle que j'ai à cœur depuis quelques jours. Depuis quelques jours, et puis même hier, alors qu'avec un petit groupe de personnes, nous étions allés sur Paris pour préparer un repas pour des plus démunis que nous. Dans le 14e, là, on filait faire des courses et puis j'ai vu une vitrine. Alors, j'avais pris la photo, mais j'ai mon téléphone qui m'a fait un truc bizarre, donc il est à recharger. Mais globalement, il y avait marqué quelque chose du style « Nous ne vous souhaitons pas un joyeux Noël, nous préférons vous souhaiter un beau Noël ». Alors, c'était une vitrine de mobilier urbain très hype, tendance, tout ce genre de trucs là, qui coûte super cher en plus. Bon, c'est le 14e, après tout. Mais voilà, l'accent était mis sur le beau Noël plutôt que le joyeux Noël. Je crois que c'est ça l'esprit de Noël. Enfin, je sais pas. L'esprit de Noël. Ou autre expression qu'on entend beaucoup en ce moment, peut-être. Alors peut-être que je me fais vieux jeu, hein, ça a peut-être changé, mais on entend parler soit d'esprit de Noël, de l'esprit de Noël, je me répète, hein, exprès, ou de la magie de Noël. Pourquoi pas? Ce sont là des expressions, je crois encore, de ce temps, à la fois de notre époque, fait partie de cette culture, mais plus encore, bien sûr, de cette actualité, de ces jours présents. Nous allons le célébrer certainement aujourd'hui, ce soir et surtout demain. Mais de vous poser la question ainsi, qu'est-ce que pour vous l'esprit de Noël? Allez-y. C'est quoi l'esprit de Noël? Toujours manger, manger. Je vois que tu saisis le truc. Quoi d'autre encore peut-être? Qu'est-ce que pour vous l'esprit de Noël? L'unité. Merci. Merci. La famille, c'est vrai. Oui aussi. Ouais. Ah, une petite main levée. Vas-y. Oh, très bonne réponse. C'est de la bouche des enfants que... Non, je... on va pas aller jusque-là quand même. Bon, on va pas tout sortir, mais il y a beaucoup de choses. Et puis si on écoutait davantage, notamment les médias, la plupart des citoyens de ce monde, on pourrait entendre beaucoup, beaucoup encore de choses à propos de l'esprit de Noël. Mais j'ai encore là deux questions toutes bêtes. On va pas y répondre très longuement, mais quand même. En un mot, en une phrase, au maximum, seriez-vous me résumer ce qu'est Noël ? Et les enfants ont le droit de répondre. Je sais qu'ils sont là ce matin puisqu'ils n'auront pas à descendre. On peut parler aussi des grands-enfants. Mais qu'est-ce que c'est que Noël ? Je l'ai posé il n'y a pas très longtemps à la fête de Noël, mais je la refais. Hein, j'aime bien cette question-là. Qui a envie de répondre ? Alors, Adeline, vas-y. Le jour des cadeaux. C'est-il pas vrai? Je vois Jean là, je lui fais peur. Quoi d'autre? Ah, je pense qu'il y a un acquiescement global. Noël, c'est le jour des cadeaux. Quoi d'autre? Pas grand-chose. J'exagère. Je continue. Effectivement, très souvent, si on posait la question dans la rue, l'une des premières choses, en plus de ce qui a été évoqué, et qui est très vrai, la famille, etc., viendra essentiellement, pourquoi pas même, les cadeaux. Et on va parler un petit peu de cadeaux aujourd'hui, du moins dans la Bible. Eh oui, il y a aussi parfois des cadeaux. Mais j'ai une question avant cela. Vous allez tout de suite voir vers quoi je vous aiguille. Connaissez-vous les mages qui vinrent s'incliner devant Jésus? Est-ce que vous les connaissez? Alors, qui peut m'aider? Connaissez-vous les mages? Dites-moi ce que vous savez d'eux. Balthazar, Melchior et Gaspard. Ah, vous les connaissez mieux que moi. Hein. Moi, à chaque fois, je me fais piéger. Quoi d'autre encore? Que savez-vous à propos des mages? Qui sont-ils? Ils emmènent des cadeaux. Ah ben voilà, il est bien question de cadeaux. On va y venir, hein. Je vais reprendre le temps. Quoi d'autre? Allez, une dernière réponse. Alors, qui a parlé? Juste pour la redire. Oui, vas-y. Ils sont venus adorer Jésus. En effet. Alors, on ne va pas continuer à porter tous les éléments imaginables, imaginés, je ne sais où. À propos d'eux, je vous propose mieux encore, prenons notre Bible et ouvrons-la en Matthieu. En Matthieu chapitre 2, oui pardon Matthieu, j'ai oublié de te donner les références, ma petite tête cette semaine a un peu oublié deux, trois choses. Matthieu chapitre 2, les 12 premiers versets, dans la semeur, toujours. Voilà, Matthieu va en même temps les afficher pour ceux qui n'auraient pas une Bible avec eux, ou même ne serait-ce qu'une application. Donc Matthieu, tu peux venir t'asseoir là si tu veux. Assieds-toi si tu veux, si tu préfères être devant, il n'y a pas de souci. Matthieu, chapitre 2, les 12 premiers versets. Écoutons donc sa parole. Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient : où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant, puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là,
Elle s'arrêta.
En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Fin de notre lecture pour ce matin. Alors j'ai encore quelques petites questions pour vous, mais il n'y a pas obligation à y répondre à toutes. Suite à notre lecture, j'aimerais déjà vous demander, mais où sont-ils passés ? Alors de qui je parle là ? Je suis un peu flou. Mais oui, où sont-ils passés ? Les Melchior, les Balthazar, le même troisième larron, le Gaspard. D'ailleurs, sont-ils trois au juste ? Ou encore, sont-ils même des rois mages ? Je commence ainsi, je ne vais pas durer non plus, mais il est bon de se souvenir du regard que portent les Écritures sur ces personnages. Nous sommes encore dans le temps où nous célébrons presque les 500 ans du protestantisme, et où disons l'Écriture seule. Alors, je vais en profiter de ramener une dernière fois ce petit couplet ce matin. En effet, seul Matthieu, par son évangile, mentionne ces personnages des mages. Allez les chercher ailleurs, vous ne les trouverez pas. Il n'y a que chez Matthieu dans ce passage, c'est tout. Ni Marc, ni Luc, ni Jean n'en parlent ou leur accordent une quelconque importance. Ça ne veut pas dire qu'il faut les oublier. Mais voilà. Et selon les Écritures seules, nous n'en connaissons jamais leur nombre exact, et encore moins leur nom. Et sachez que si aujourd'hui on vient parfois à les qualifier de rois mages ou de les appeler par ces trois prénoms qui ont été cités tout à l'heure et que je viens de redonner, et d'en compter notamment trois et pas un de plus, tout cela est lié à des traditions chrétiennes qui sont apparues dans l'Église. Alors quand je parle de l'Église, je parle de l'Église universelle. Et je garde le mot universel parce que l'autre mot universel, quand je le dis, ça fait peur. C'est catholique. L'Église catholique, c'est l'Église universelle. Par contre, je ne dis pas l'Église catholique romaine, qui, elle, est l'Église que nous appelons l'Église catholique. Mais toutes ces petites choses qui se sont ajoutées et qui n'existent pas dans les Écritures sont liées à des traditions anciennes, mais qui, pour la plupart, parmi les plus anciennes, remontent au 6e, 7e siècle après Christ. Et, à mon avis, ne sont pas forcément très fondées, voire pas du tout. Donc, c'est pas bien grave. Mais voyez à quel point la Bible, elle, se fait beaucoup plus modérée quant à ces mages sur deux, trois petites choses comme cela. Et j'aimerais revenir à l'essence même de ce que sont ces mages, parce que c'est là où la Bible veut nous parler. Qui sont-ils au juste ? Question que je vous ai posée tout à l'heure, et vous avez fait émerger les choses qui effectivement ne sont pas forcément dans la Bible, parce que c'est ce que nous retenons, c'est plus facile, nous en avons besoin aussi. Mais notez bien une chose, ces mages brillent par quelque chose de très important. Ils n'ont pas de nom. Ou du moins, leurs noms sont absents dans les Écritures. Et oui, les mages demeurent dans l'anonymat. Alors pourquoi cela ? Pour renvoyer, je le pense, à une réalité qui va bien au-delà de ce simple groupe de personnes qui sont venues et ont voyagé longtemps. Il n'y a pas qu'eux. Ils sont représentatifs de tout ce qu'ils sont eux-mêmes. Et donc, quelque part, eux-mêmes représentent beaucoup plus que ce qu'ils sont. D'où le fait que la Bible, et notamment Matthieu, n'a pas cherché à nous donner ces noms. À quoi bon ? Ça ne nous est pas utile. Nous savons encore autre chose, c'est qu'ils sont venus d'Orient. Venus d'Orient. Voilà encore un détail à leur sujet. Un détail imprécis. D'où exactement en Orient, nul ne le sait. Et en fait, d'ailleurs, peu importe. Au temps où Matthieu écrit son évangile, un détail qui donne quelques informations mais reste imprécis est déjà bien suffisant pour ceux qui découvrent l'évangile de Matthieu. Car il signifie que ces mages viennent de loin. Voilà ce que signifie déjà le fait qu'ils viennent d'Orient. Ils viennent même de très loin, de pays païens, plus encore. Et c'est cela ce que représentent certainement les mages. Eux qui n'ont jamais été au profit de la révélation divine. Ce n'est pas un peuple qui a été au bénéfice de ce que Moïse et tous les prophètes ont reçu et a été partagé parmi le peuple que Dieu s'est choisi. Au contraire, ils viennent de loin, ils viennent d'Orient. Et c'est cela qui importe ici. Bien plus d'ailleurs que les coordonnées GPS de la tente de Melchior, où il y avait encore laissé son gros SUV Lamborghini, puisque après tout, dans ce genre de pays, ils ont tous des gros SUV. Hein, aujourd'hui, pardon. Tout bonnement, par leur anonymat, par leur origine qui reste assez vague, volontairement, ces mages symbolisent à eux seuls, ce groupe de mages symbolise le monde païen. Ils sont représentatifs un peu comme ambassadeurs du monde païen, si vous préférez. Mais plus que tout, nous savons que ce sont des mages. Alors j'ai encore une question pour vous, un ensemble de petites questions. Des mages. Vous en connaissez, vous, des mages, aujourd'hui? Je ne parle pas des trois, là. Des trois, ils ne sont même pas trois, mais... Est-ce que vous avez déjà croisé un mage, aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà salué un mage? Est-ce que vous avez un ami mage dans vos relations? Est-ce que vous avez sur Facebook un copain qui est mage? Enfin, un ami, pardon. J'oublie que sur Facebook, il n'y a que des amis. Problème. Qu'est-ce qu'un mage? Ce n'est plus une profession très en vogue de nos jours. Hein. Qui a envie de faire mage, d'ailleurs, parmi nous? Personne. Bon, je sais pas, ça n'a plus trop la cote, hein, on dirait. Quelqu'un, d'ailleurs, parmi nous, a-t-il déjà fait des études supérieures pour devenir mage? Non. Non plus. Ah, Adeline. Ah, bravo. Adeline est d'humeur taquine ce matin. Elle me connaît. Hein. Mais toute blague à part, un mage, autrefois, est plutôt un savant. Un homme épris de science. Un homme assoiffé de connaissances. Très certainement aussi un prince, un noble. Parce que pour pouvoir s'adonner à la science, pour pouvoir faire de la recherche, pour pouvoir voyager et aller là où il y a des choses à apprendre, il faut en avoir quand même les moyens. Et voyager si loin exige quand même un certain, j'allais dire, pas standing, mais un certain niveau social, pour employer mon langage plus moderne. Pour le résumer, donc, ce sont les sages de leur temps, de là d'où ils viennent. Qui, en plus ici, au moins c'est l'une des qualités qu'on leur connaît, savent observer le ciel. Ils le connaissent. Ils savent voir ce qui change, ce qui n'est pas tout à fait comme avant. Ils savent l'interpréter. Alors ils font figure certainement un petit peu d'astronome. Peut-être, pourquoi pas non plus, et que ça ne nous choque pas, d'astrologue. Parce que, à cette époque-là, en général, le ciel, on ne fait pas que le regarder en disant « ça c'est une étoile, ça c'est une étoile ». On interprète aussi, parfois. On essaye de donner sens à tout cela. Mais bon, laissons cette partie-là de côté pour autant. Or ici, suite à leur vie quotidienne, à toutes ces sciences qu'ils aiment à regarder, ils regardent le ciel, ils observent les astres, ils viennent tout d'un coup à apercevoir un changement particulier, quelque chose qui n'est pas régulier, mais quelque chose qu'ils attendaient apparemment. Et ils viennent à savoir, regardant les astres, en voyant un astre, ce qu'on appelle une étoile. N'allons pas faire de science autour de ce qui s'est passé, c'est très difficile de le savoir. Plusieurs hypothèses tournent et aucune n'est vraiment sûre et certaine. Mais par ce qu'ils ont vu, ils ont compris que le roi des Juifs va naître. Et ce n'est pas dans 10 ans, 30 ans, 50 ans, un temps indéfini, c'est là, dans les jours qui viennent, dans le mois qui vient. Enfin, j'exagère, je ne sais même pas aussi quel est le délai d'ailleurs. Mais... peut-être ont-ils fait le lien avec quelques paroles prophétiques reçues au contact de Juifs. Certainement, ils bougeaient, ils voyageaient, ils ont croisé des Juifs, ils sont épris de science, de connaissances, ils ont aussi certainement entendu parler des Écritures saintes qu'avait reçu ce peuple, et certainement en connaissaient certains éléments. Difficile de savoir ce qui les a amenés comme cela. Est-ce qu'ils ont eu une révélation particulière? C'est peu probable, mais bon. On ne sait pas tout sur eux. Toujours est-il que leur destination est évidente. Ils savent où ils doivent aller. Ils vont suivre cette étoile. Et il leur faut aller à un endroit. À votre avis, où devait-il aller? Selon eux. Ils ont suivi l'étoile, mais je pense qu'ils avaient quand même une idée parce qu'ils s'arrêtent à un endroit. C'est là qu'ils s'attendent à quelque chose. C'est là qu'ils posent la grande question. Ils devaient aller à Jérusalem. Après tout, le roi des Juifs doit naître. Où va-t-on le trouver ? Dans une logique venant de l'extérieur, pour un païen, pour quelqu'un qui ne connaît pas toutes les Écritures, il faut aller à Jérusalem. C'est la capitale des Juifs. C'est la ville royale de la dynastie issue de David. Il n'y a pas d'autre possibilité, a priori. Et dans ce souci de rendre hommage au roi qui devait venir, il débarque donc à Jérusalem en demandant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Bonne méthodologie. Il ne se trompe pas, globalement. Là où on aurait pu s'attendre, une fois qu'ils sont arrivés à Jérusalem, et posent la question, de leur point de vue, très certainement, ils s'attendaient à une liesse, à une fête en l'honneur du nouveau roi. Je suis parmi ce peuple qui vient de recevoir un nouveau roi, je suis dans leur capitale, il est né. Où est-il ? J'aimerais me joindre à vous. J'aimerais moi aussi venir l'honorer. Et là, tout d'un coup, tout devient étrange, d'une certaine manière, si je garde le regard que pouvaient avoir ces mages. Que nenni ! L'arrivée des mages provoque quelque chose, quand même. Ça va semer le trouble. C'est très étonnant. L'arrivée des mages sème le trouble, non seulement dans le cœur du roi actuel, là on devine un petit peu, on commence à connaître le personnage, mais aussi, plus étonnamment, au sein de la ville elle-même. Jérusalem aussi est troublée d'entendre cela, d'entendre cette question qui annonce quelque chose. Autant Hérode, lui, le roi, lui, je vais utiliser un mot un peu bizarre, l'Iduméen, cet homme issu du peuple d'Édom, de ce pays voisin, de ce pays qui est un peu un frère lointain, très lointain, et qui surtout a beaucoup persécuté autrefois Israël. Lui, Hérode, pouvait craindre pour son propre trône, avec l'apparition d'un roi concurrent, plus légitime. Lui, c'est le roi des Juifs. Lui, il n'est pas tout à fait. C'est parce que Rome était derrière qu'il a pu être installé là. Mais pourquoi Jérusalem est troublée, c'est beaucoup plus difficile à le concevoir. Et peu importe, n'allons pas nous attarder là-dessus. Ben quoi ? Leur roi vient de naître. Les mages en sont convaincus, ils en ont une certitude, c'est pas qu'ils se posent la question, ils le savent. Ne devrait-il pas aussi ce peuple juif, notamment la ville de Jérusalem, sortir dans la rue et crier « Hosanna ! Notre roi est né, le Messie, le fils de David !» Alors, bien sûr, l'évoquer comme ça, en pensant que tout allait fonctionner comme ça, serait bien trop simpliste. N'en oublions pas que déjà, un peu avant que Jésus n'arrive, quelques années, voire quelques décennies, et après aussi d'ailleurs, malheureusement encore, dans cette époque qui est trouble pour Israël, des messies commençaient à s'autoproclamer de temps à autre. Et cherchaient à rallier des hommes, des femmes, surtout des hommes, prêts à prendre les armes, notamment, pas que, mais notamment, pour essayer de contrer l'envahisseur, ce païen qui occupait la Terre Sainte. Aussi, un de plus, un de moins, il n'est pas toujours facile aussi de savoir qui va être le vrai Messie dans tout ce qui s'annonce déjà. Et puis là, en plus, ce sont des mages, des païens qui viennent dire « Il est né ». Est-ce qu'ils sont dignes de foi, ces gens-là ? Je catalogue, je ne fais que des hypothèses. Mais surtout, revenons à nos mages, essayons de nous remettre dans leur situation. Eux qui sont convaincus de ce qui se passe là. Imaginez l'étonnement des mages. Eux qui ont fait un long voyage pour venir assister à l'accomplissement d'une promesse. Or, cette peut-être, ils sont aisés. Ils ont donc les moyens, le confort nécessaire pour voyager. Qui a déjà voyagé, allez, à dos de chameau, de dromadaire, bon, sur une de ces montures improbables qui existent par là-bas, et de voyager longtemps, certainement dans des régions plutôt désertiques. Il n'y a pas la clim, hein, sur un chameau, ni sur un dromadaire, je crois. On ne l'a pas encore mis, hein, on ne l'a pas installé. Je pense que c'est un voyage quand même qui demeure en partie éprouvant, qui demeure long, qui demeure épuisant, qui trahit la volonté vraiment de se rendre jusqu'au bout du voyage. On n'y va pas juste pour s'amuser. Hein. Il y a quelque chose de fort que l'on veut aller voir. On ne fait pas ce voyage sans rien, sans raison forte. Et eux qui ont fait un long voyage pour venir assister à l'accomplissement d'une promesse faite au peuple juif depuis déjà plusieurs siècles, ça je pense qu'ils en sont conscients, les voilà maintenant dans la capitale, dans la cité royale, et nada, rien, pas de réaction particulière. Je pense qu'on fait un si long voyage et on peut s'attendre à ce qu'il y ait déjà quelque chose qui se vive là où on se rend, et rien. Ça peut toujours prêter à angoisse, à une forme de déception, on se dit, mais est-ce qu'on s'est trompé ou est-ce qu'on s'est mal compris? En tout cas, personne à Jérusalem, ou presque, n'a l'air d'être au courant de ce qui vient d'arriver. Peut-être d'ailleurs qu'ils dorment tous, hein, dans leur tête en tout cas, allez savoir. Mais ici, le récit en Matthieu joue de ce contraste-là, un contraste très fort, presque trop même. Dire qu'ils avaient fait un si long voyage et au bout du compte, rien. Personne n'avait l'air de s'émouvoir de ce que le ciel était en train de manifester par cet astre scintillant, brillant. Seuls les mages, en tout cas ici dans ce récit, avaient accouru jusqu'en Judée. Leur voyage aurait pu tourner au fiasco, là, arrivé à ce stade-là. Un peu plus, il faisait chou blanc. Hein. On a fait un si long voyage et rien. C'est comme si, par hasard, vous prépariez à aller au ski, là, tout à l'heure, là. Vous arrivez dans les Alpes, pas de neige. Ah, zut! Or, déjà, les histoires de SNCF avec les trains bondés et tout ça, ras la patate. Vous arrivez en vous posant, disons, c'est fini, on va pouvoir enfin se reposer et s'amuser. Et puis, vous regardez la montagne et rien. Voire même mieux, la montagne a disparu. Oups! Bon, j'exagère, hein. Mais... même en exagérant, je pense, pour les mages, peut-être il y avait quelque chose qui, là, tout d'un coup, leur semblait étonnant, bizarre. Mais bien heureusement, il y a un personnage qui va quand même les aider. Et ce n'est pas le personnage qu'on attendait. Hérode, en vieux filou, parce que c'est un sacré vieux filou quand même, pour rester très très gentil, fait appel aux bons élèves de la classe, aux scribes, aux docteurs de la loi, ou du moins ceux qui ont la connaissance. Et Hérode va les utiliser pour leur arracher la bonne réponse. C'est comme tous les vieux filous, hein, vous savez, il est au fond de la classe, mais de temps en temps, il sait choper la bonne réponse sur le voisin de devant qui lui sait tout. Hérode, c'est ça, entre autres. Et c'est à Bethléem, bien sûr, que les choses doivent avoir lieu. Là-dessus, les mages, peut-être, n'avaient pas encore saisi tout. Ils avaient une conviction, mais ils n'avaient pas tous les éléments. Et Hérode, toujours en vieux filou qu'il est, reprend à son compte l'intention des mages. En leur demandant de le tenir informé une fois qu'ils auront trouvé ce nouveau roi. Or, les mages ici, en voyant ce roi les convoquer en secret, déjà c'est bizarre, les mages semblent assez naïfs, tout à coup, en se faisant si facilement piéger par ce cruel roi. Or, bien sûr, nous, en tant que chrétiens, en tant que lecteurs de la Bible, nous avons connaissance de ce personnage-là. L'histoire le montre, mais déjà la Bible le dit bien. Nous savons et nous connaissons ce qu'il a l'intention de faire, et puis l'auteur nous le révèle aussi. Mais les mages, eux, ne le voient pas. Ils entendent un roi qui cherche à honorer un autre roi. Bon. Un piège, d'ailleurs, que Dieu va déjouer très simplement en venant, à la fin, parler aux mages pendant leur rêve d'un soir, certainement avant leur départ. Et puis il va leur dire, notre chemin n'a tout pas revenu vers Jérusalem, faire état de ce que vous avez vu. Et voilà, enfin, les voilà. Nos hommes venus de si loin, eux qui, en raison de leur naïveté, auraient pu faire même tuer indirectement ce roi annoncé par les prophètes du peuple d'Israël, se trouvent enfin, et c'est sur cela que je veux m'arrêter, parce que c'est ça l'intérêt, devant l'enfant et aussi sa mère. Alors, la mère, je la mets un peu de côté, mais elle est présente. Ne l'oublions pas. Ainsi, long voyage récompensé par la vision d'un petit enfant aux côtés de sa mère. C'est quand même étonnant, hein ? Je réfléchis juste à vue humaine. Alors bien sûr, quand, en tant que parent, grand-parent, il peut y avoir un petit enfant qui naît, on est prêt à faire des kilomètres pour aller voir l'enfant. Mais là, c'est pas de leur, hein ? C'est pas de leur famille, hein ? C'est juste un petit bout de chou. Excusez-moi l'expression, hein. J'essaye de rester respectueux envers notre Seigneur, mais à l'époque c'était un petit bout de chou qui était dans une mangeoire. C'est pas trop la classe en plus, mais bon, c'est pas grave, on peut s'en accommoder. Mais ici, ces mages, face à cet enfant, nous avons là l'essence de ce qu'est Noël. Dans ces versets 9 à 11, là, c'est là la partie précieuse de ce récit. À ce moment-là, dans ce temps où les mages se trouvent face au Messie, à loin de Dieu, qu'arrive-t-il ? Qu'arrive-t-il ? Dites-moi ce qui se passe quand les mages sont enfin devant l'enfant. C'était dans le texte. Dites-moi. Ils l'adorent. Quoi d'autre encore ? Ils se prosternèrent, oui. Voilà, il y a les présents aussi, qu'on connaît aussi assez bien. Là, il y en a trois. Là, on est sûr qu'il y a trois choses. Alors, c'est pour ça que parfois, on se dit trois mages, parce que chacun amène un truc. On n'en sait rien. Il pouvait être 15, il pouvait être 2, peu importe. Mais effectivement, c'est tout ce que vous venez de dire. L'essentiel est là. Alors, parfois, nous serions à même peut-être de cristalliser notre attention, premièrement, sur le bling-bling, sur le clinquant. Les présents qui ont été apportés par les mages pour cet enfant. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Ce sont des cadeaux. Noël, c'est offrir des cadeaux à Jésus, en fait. Ah, qui a pensé à mettre des cadeaux pour Jésus au pied de son sapin ? Non, je déconne. Il a tout, tout lui appartient déjà, donc vous pouvez lui offrir. Ce que nous avons fait par le geste de notre offrande, c'est ça le cadeau que nous pouvons lui faire aussi aujourd'hui. Pas que seulement, il y en a d'autres encore. Mais ces cadeaux-là que viennent apporter ces mages, ce sont des cadeaux de très grande valeur. De très très grande valeur. Aujourd'hui en plus, alors là, on n'ose même pas imaginer s'ils existaient, à quel point il y aurait une espèce de dévotion folle vis-à-vis de ce genre d'objet. Heureusement, ils n'existent plus. Mais ce sont plus encore des cadeaux dignes d'un roi. Ce n'est pas des cadeaux qu'on offre à tout le monde. Par exemple, je vous pose la question, à votre belle-maman, si vous en avez encore une, est-ce que vous lui offrez n'importe quel cadeau ? Vous allez lui offrir une Game Boy, une nouvelle console de jeu. Bon, il y a les gamins. Comme ça, je pourrais jouer avec mamie, trop cool. Mais suivant les personnes à qui nous devons offrir un cadeau, on n'offre pas n'importe quoi. Si c'est par exemple votre épouse, vous n'allez pas lui offrir un grattoir pour faire la vaisselle à Noël. Je pense que vous allez passer un mauvais Noël sinon. Vous allez plutôt lui offrir quelque chose qui lui fait grandement plaisir, qui est digne de ce qu'elle est. Qui est digne de la manière dont vous voulez l'honorer. Eh bien, ces mages-là, c'est ce qu'ils font. Ils ont apporté ce qu'il y a certainement de plus précieux, ce qui a une très grande valeur et qui ne peut être qu'offert qu'à un roi. Il y a aussi là, très certainement, une allusion au pèlerinage de la fin des temps qu'on en entend à un moment dans la fin du livre d'Ésaïe, où le verset 6 du chapitre 60 dit ceci, « Tous les habitants de Saba, venus d'Orient, d'une certaine manière, viendront et ils apporteront de l'or et de l'encens, et ils proclameront les louanges de l'Éternel. » Je ne m'attarde pas trop sur ce verset-là, mais il y a peut-être ici quelque chose qui dit une réalité que l'on voit. Mais que sont ces cadeaux avant toute chose ? Plus encore que ce que je viens déjà de dire. Et on l'a entendu tout à l'heure dans ce que vous avez apporté comme réponse. Ces cadeaux, plus que tout, sont adoration. Ils sont ce geste qui dit leur hommage sincère et profond pour, j'allais dire cet homme, mais c'est encore qu'un bébé. Hein. Nous savons qu'il va devenir homme, nous savons ce qu'il va devenir, mais c'est encore un homme qui vient juste de naître. Quelqu'un qui vient d'arriver dans le monde. Et c'est là le cœur même de ce qui se vit au temps de Noël. Nous venons, nous aussi, à nous rappeler que le prince de paix est venu parmi nous et qu'il s'est abaissé en se faisant petit enfant. Frêle, c'est frêle, hein, c'est fragile un petit enfant. Parmi ce que nous sommes aussi, nous les hommes et femmes de ce monde, nous sommes très fragiles, nous sommes frêles. Nous savons à quel point nous sommes à même encore, malheureusement, parfois de chuter. Et l'attitude de ces mages, de ces païens, pour le résumer dans ce qu'ils sont, venus de loin, souligne ce que doit être notre foi. Alors que Dieu s'est fait homme, dans ce temps de Noël, qui dit cette incarnation, ce projet qu'il a eu, par rapport à ce que nous allons dire tout à l'heure dans le repas que nous allons partager, lui s'est fait humble, et eux, c'est pas n'importe qui, et pourtant, ce sont ces sages, ces savants, certainement d'origine noble ou princière, devant quelqu'un d'aussi humble, eux s'inclinent et se mettent à genoux devant un petit bébé. Parce qu'ils savent, en grande partie, peut-être pas totalement, l'importance qu'a ce bébé. Non pas plus juste pour un peuple, mais pour tous les peuples, puisque c'est ce qu'ils sont. Ils viennent de loin. Et c'est une attitude chez les mages qui contraste, parce que le récit est construit ainsi, avec l'autre roi du récit, Hérode, un roi cruel pour plein de choses, et on sait ce qu'il va commettre bientôt en plus, à cause de cette jalousie. Un roi qui a peur en raison de la concurrence qu'il voit déjà chez cet enfant qu'il ne connaît pas. Oui, il y a une attitude ici qui contraste aussi, et malheureusement, avec l'immobilité notamment des scribes, de ceux qui sont consultés, qui ont la bonne réponse quant à l'endroit où ils devaient naître, et qui n'ont pas l'air de s'associer aux mages. Cette rencontre des mages, venus voir le Messie, résume, je crois, assez bien ce que doit être, je reprends l'expression moderne d'aujourd'hui, qui n'est pas très fondée en fait, mais ce que doit être l'esprit de Noël, parce que pour moi, l'esprit de Noël, il est là, dans ces mages, face à l'enfant. Tout est là, il n'y a rien à rajouter. Il y a aussi des cadeaux, mais vous avez vu dans quelle direction ils se font. Hein. Et pour le résumer, voilà quelques éléments qui disent ce qu'est l'esprit de Noël tel que je l'entends ici dans ce récit. C'est un moment de réponse aux interrogations. Des interrogations qui dépassent les frontières du seul peuple d'Israël, puisque là en plus s'ajoutent des gens venus d'Orient, des païens, nous. Deuxièmement, c'est un moment de don face à l'égoïsme et aux craintes des puissants. Les gens se sont venus donner ce qui leur semblait de plus honorable, ce qu'ils pouvaient offrir de mieux, très certainement. Ce qu'est Noël encore, c'est aussi un moment de paix. Ce groupe d'hommes qui, quelque part, aurait pu, sans s'en rendre compte, piéger cet enfant à cause d'Hérode et de sa malveillance. Mais c'est un moment de paix au milieu des projets de violence. Et il y en a un qui va bientôt se déchaîner sur toute cette partie du pays, par la jalousie d'un roi. C'est encore, quatrième chose, un moment de vérité au milieu des mensonges, de la duplicité. Et là encore, je prends l'autre contraste, l'autre personnage qui vient contraster, Hérode. Lui aussi d'ailleurs un païen, même s'il se fait roi des Juifs. Là, nous sommes dans la vérité, dans le projet de Dieu qui s'accomplit. Et plus que tout, parce que c'est ça aussi qui est dit ici, et c'est le mot qui apparaît surtout. C'est un moment de grande joie. Ces hommes qui ont fait un long chemin, certainement épuisant, harassant, tout ce qu'on veut, avec certainement un début de désillusion quand ils arrivent à Jérusalem et qu'ils s'attendaient peut-être à autre chose que l'accueil qu'ils ont. Surtout par rapport à la question qu'ils posent. Rien, au début en tout cas. C'est un moment de grande joie, au milieu des incertitudes, au milieu des souffrances, au milieu des pleurs, qu'engendre d'ailleurs le mal dans ce monde. Il y aura encore de la souffrance, mais là, les mages, eux, comme il est dit, en revoyant verset 10, en revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Parce qu'ils savent qu'ils vont arriver devant celui qu'ils espéraient voir. Ça y est, ils vont être récompensés. Tout à l'heure, je suis désolé, je n'ai pas la photo là, que j'avais faite hier, sur cette vitrine qui disait à but mercantile que nous ne vous souhaitons pas un joyeux Noël, mais nous vous souhaitons un beau Noël. Autrement dit, venez acheter nos beaux meubles, histoire d'égayer votre Noël et que Noël soit enfin quelque chose de chouette. Je traduis, hein, mais on comprend l'intention de ces gens-là. C'est leur métier. Mais Noël n'a pas vocation à être beau en particulier. Je le souhaite quand même. Mais ce qui est important, c'est la joie que doit nous procurer Noël, malgré peut-être nos défaillances, nos souffrances, nos maladies. Car Noël nous rappelle ce que Dieu a accompli, lui qui s'est incarné, lui qui s'est fait homme, lui qui a été fidèle à sa parole. Prenons peut-être juste un instant pour nous incliner avant que nous partagions le repas du Seigneur, juste après. Voilà, inclinons-nous un instant. Seigneur, toi notre Dieu, toi le prince de paix qui s'est fait homme, qui est venu parmi nous, toi qui as surpris la plupart des hommes de ton temps, toi qui aujourd'hui encore peux nous surprendre parce que nous apprenons de toi par ta parole, Seigneur, béni sois-tu pour ce que tu as accompli en ce jour-là. Toi qui t'es incarné, toi qui t'es fait nouvel Adam, en vue de conclure une nouvelle alliance pour nous avec ton propre Père. Seigneur, oui, merci, parce que ce projet, cet accomplissement qui a commencé par ce temps de Noël, dit tout ton amour pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, que ce temps, que nous allons certainement pour beaucoup, si ce n'est tous, le passer en famille, le passer, comme nous l'avons dit, dans l'unité, dans la joie. Oui, Seigneur, que ce temps soit un temps de joie, malgré certainement nos problèmes, nos défaillances, nos souffrances. Seigneur, rappelle-toi à nous de ce que tu as accompli, par amour pour nous. Toi qui t'es fait aussi homme, afin de pouvoir mourir à la croix. Seigneur, sois béni pour ce que tu as déjà accompli. Sois béni parce que tu nous as montré que les promesses que tu avais faites à ton peuple se sont accomplies pour la grande majorité d'entre elles. Et Seigneur, sois béni parce que nous savons que ton prochain avènement aussi est aussi sûr que le premier. Même si effectivement, il y aura là aussi un effet de surprise pour chacun d'entre nous. Oui Seigneur, toi le Dieu trois fois saint, nous voulons encore te remercier pour ce que tu es et ce que tu as fait. Car tu es digne de louange. Tu es digne d'être glorifié et d'être adoré par les hommes et les femmes de ce monde. Aussi, Seigneur, encore que ton nom soit exalté, que ton nom soit proclamé, afin que beaucoup d'autres encore se joignent à ton peuple dans l'attente de ton retour. Amen. Voilà. Suite à ce message, à cette parole fraternelle, je vais vous proposer, parce que nous ne sommes pas forcément trop nombreux ce matin, bien cassés quand même, mais j'aimerais vous proposer de fonctionner un peu différemment. Je demanderai juste à mon cher frère Afonso de venir m'aider tout à l'heure pour partager ce repas. On va le faire à deux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je vais inviter chacun d'entre nous, y compris les enfants. Alors les enfants, restez à côté de vos parents, on va faire un grand, grand cercle. J'aime bien le faire de temps en temps quand je le peux. Aujourd'hui, j'ai encore envie de le faire. Donc, levez-vous tous. Faites un très, très grand cercle. Ceux qui sont en haut, vous descendez. Et oui, un peu de gymnastique encore ce matin. Je vais demander à Fonso d'être juste à côté de moi ou d'être à côté de la table. Voilà, tenez-vous, serrez-vous. Les enfants, soyez juste à côté de vos parents. On s'inscrit tous dans un grand cercle. Montez, pourquoi pas sur l'estrade aussi. Venez par là. Oui, on va faire de la place. On a besoin d'un maximum de place. Serrez-vous, donnez-vous chaud, même s'il fait déjà bon. Alors, n'hésitez pas aussi à vous mettre devant la sono, parce que derrière, ça va être un peu compliqué pour former comme un grand cercle. Voilà. Voilà. Alors, va-t-on y arriver ? Ah oui, en fait, on est quand même assez nombreux. Mais c'est bien. Serrez-vous, montez encore sur l'estrade. Il y a de la place. Voilà, faites de la place à nos frères et sœurs, parce que nous allons partager ce repas. Aussi, nous allons former une énorme table ce matin. Elle n'est pas là devant nous, mais nous allons quand même partager ce repas. Alors peut-être, ceux qui sont en bas de l'escalier, laissez de la place pour que tout le monde descende, et puis on va serrer les rangs, il y a encore plein de place là. Tenez, venez là, venez là. Ici, ici, Jonathan. Tiens. Et puis d'autres aussi, venez, venez, venez. Allez, allez, allez. Voilà, nature, ne reste pas, nature, viens, viens. Ne restez pas à boucher l'escalier, venez là. On va perdre un peu de temps, mais c'est pas grave. Voilà, encore, encore, encore. Serrez-vous, serrez-vous, serrez-vous. Qui peut encore se serrer un petit peu? Voilà, je pense, là-bas, on peut encore serrer. Là, allez-y, serrez-vous, voilà, voilà. Bon, on montera jusqu'à vous. Alors, pour les autres, je demanderai peut-être l'aide de Freud, à ce moment-là, qui montera jusqu'aux autres. Nous allons maintenant, effectivement, partager ce repas. Et ce que je souhaitais, bien qu'en arrivant presque à former un grand cercle, c'est de dire que quelque part, nous sommes tous appelés, dans l'attente du retour de notre Seigneur, à venir à sa croix, pour nous nourrir de ce qu'il est, lui, et de ce qu'il a dit par sa parole. Oups. Nous allons le partager ensemble, chacun. Effectivement, je vais inviter tous ceux qui ont déjà confessé le nom du Seigneur, ici ou ailleurs, mais l'ont confessé et ont dit leur foi de pouvoir manger de ce pain et boire à cette coupe. Et pour ceux qui peut-être ne l'ont pas encore fait, je vous associe à cette table, mais peut-être vous n'allez pas pouvoir aujourd'hui prendre ce repas. Mais nous sommes dans l'espérance de vous voir un jour, bientôt je l'espère, le faire avec nous. Parce que nous sommes tous invités à venir participer à cette table. Voilà. C'est ainsi que je vous invite tous, soit à prendre ce repas, soit à le passer à votre voisin ou voisine. Et puis comme nous sommes dans ce temps de Noël, pensez aussi à avoir une parole pour lui, pour elle, qui est à côté de vous. Un simple mot même, « Sois béni de la part de notre Seigneur ». Pourquoi pas? Je vais simplement prier et puis je demanderai alors, et à Freud qui montera là-haut, ou les laissera pour que quelqu'un puisse la porter jusque là-haut, et puis mon frère Afonso, quand nous aurons partagé les éléments, l'amènera là-bas, vers la sono, afin que peut-être de chaque côté, quelque chose circule, et par ici, nous ferons circuler. Voilà, c'est juste pour la méthodologie. Mais inclinons-nous un instant, afin de prier, et de dire merci à notre Seigneur pour ce qu'il a accompli, plus que tout. Seigneur, oui, nous voulons encore te dire merci, merci pour ce que tu as accompli, toi qui t'es fait homme, toi qui es venu pour venir jusqu'à la croix. Toi qui devais être l'agneau immolé pour ce monde. Seigneur, que par ce pain, par cette coupe que nous allons partager, nous puissions nous rappeler à quel point tu es le pain de vie pour nous. Que ton sang a coulé parce que tu es mort pour nous. Mais aussi, Seigneur, mets dans notre cœur la joie de savoir que tu nous as promis que tu vas revenir à nouveau, une seconde fois. Et cette fois-ci d'une manière définitive parce que tu installeras pleinement et absolument ton royaume éternel. Seigneur, que nous puissions, oui, par ta bénédiction, par ta bienveillance, partager ce repas, que tu puisses nous inviter tous à ta table, que ce soit aujourd'hui ou demain, que tu puisses toucher les cœurs de ceux qui aujourd'hui ne pourront peut-être pas prendre encore ce repas, afin que tu puisses les toucher et les inviter toi-même à y prendre part bientôt. Seigneur, encore sois béni pour ce que tu as accompli, toi le Dieu merveilleux. Amen. Voilà, que nous fassions passer les éléments du repas. Faisons-le passer au voisin, à la voisine. Et si nous avons une parole pour lui ou pour elle, n'hésitez pas aussi à le faire. Voilà. N'attendez pas pour le pain, je sais que parfois quand nous nous levons à place, nous attendons de manger le pain, mais c'est un repas simple, prenez-le, mangez-le déjà. Et si parmi nous, effectivement, dans le temps où ce repas est partagé, veut dire son adoration, sa reconnaissance à notre Dieu, qu'il puisse le faire par sa prière, et que peut-être nous essayons de rester silencieux alors pour les autres.